Vous écoutez les programmes du studio Kalangou. Messieurs, mesdames, bonsoir et merci de suivre ce journal. Les enseignants chefs-chefs de l'université de Niamey ont entamé ce matin une grève illimitée. Ils réclament entre autres le paiement de la prime de recherche du quatrième trimestre. Journée d'information et d'échange entre les hommes de médias et les forces de défense et de sécurité en cette période électorale, c'est une initiative du Centre de Genève pour la bonne gouvernance. Les relations amoureuses entre scolaires pourraient influencer les résultats des études si ces derniers, nous en parlerons dans la partie magazine. Au micro, Hawa Maman. Le syndicat national des enseignants chercheurs et chercheurs du supérieur section de Niamey a débuté aujourd'hui une grève illimitée, a indiqué le secrétaire général du SNEX. Selon lui, le non-paiement de la prime de recherche du quatrième trimestre de 2020 est l'une des raisons de cet arrêt de travail. Écoutons Dr Guizo Isaka, le secrétaire général du SNEX, au micro de Tavnan Foudey Ahmed.
L'une des raisons pour lesquelles nous sommes en train d'aller en grève est que notre employeur, le rectorat, a déposé des états de paiement de salaire du mois passé et des PR du quatrième trimestre. Et une fois les états au trésor, ils ont payé les salaires, mais les primes n'ont pas été payées. Dans la mesure où les états ont été envoyés et qu'on a ordonné le paiement, le paiement n'a pas été fait, nous sommes dans l'ordre des arriérés. Et nous exigeons le paiement sans délai, sans condition de ces PR-là. Sans quoi, nous n'allons pas reprendre les cours. Et l'autre raison, c'est quoi? Imaginez-vous des fonds propres générés à travers les 1000 francs, les 100 francs payés par les étudiants, on verse ça de la grande calebasse trouée et on paye les salaires avec cela. Ce n'est pas acceptable. Nous sommes dans quel type de pays? Nous demandons la réévaluation de cette subvention-là. Ce que notre crainte est que ce mois-là, tous les agents de l'université, je ne dis pas seulement les enseignants, se voient sans salaire en fin de décembre.
Le Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité, DCAF, a organisé ce matin une journée d'information et d'échange sur les rôles des médias et des forces de défense et de sécurité pendant le processus électoral. Selon la coordinatrice de DCAF au Niger, l'implication de chacun de ces deux acteurs peut contribuer à ce qu'il y ait des élections apaisées. Jolie Ruth Morand, coordinatrice des opérations du DCAF Niger, est au micro de Nafisa Adamou.
Les élections, ce sont toujours des moments très, très particuliers, très tendus, dans tous les pays d'ailleurs, ce n'est pas que le Sahel. Et le fait d'organiser cette journée d'échange, c'est de permettre aux différents acteurs clés qui vont être vraiment impliqués dans ces élections-là, principalement les FDS et les médias, de pouvoir, chacun dans ce rôle, se parler et voir comment chacun peut contribuer à ce qu'il y ait des élections apaisées. Le rôle des médias, pour apaiser, pour donner une information juste, apaisante, sa contribution est énorme. Comme le rôle des forces de sécurité intérieure, c'est le maintien de l'ordre. Gérer les soulèvements qui peuvent subvenir lors des élections, tout en respectant les droits humains, tout en respectant leur code d'éthique et de déontologie. Bien sûr, ce n'est jamais facile, mais leur rôle, c'est vraiment ça, dans le respect de la loi.
Inciter les femmes et les jeunes à une implication massive dans le processus électoral en cours au Niger, c'est l'objectif d'une caravane de sensibilisation organisée par le programme d'appui à la gouvernance démocratique le week-end dernier dans la commune rurale de Yelou, département de Gaya. Selon Aïda Abdoulaye Moustapha, représentante du PAGOD, les femmes et les jeunes doivent savoir qu'ils ont le droit d'être candidats. Elle est au micro de Fadel Alou.
La caravane de sensibilisation, c'est à l'endroit des jeunes et des femmes pour qu'ils puissent participer dans les processus électoraux en cours au Niger. Vous avez remarqué le sketch par rapport à l'implication des femmes et des jeunes. Nous savons tous que la jeunesse et les femmes sont les couches les plus nombreuses ici au Niger. Et donc, ils ne sont pas beaucoup trop impliqués dans les processus électoraux. C'est-à-dire qu'ils peuvent sortir à chaque fois voter, mais ils ne font pas partie intégrante dans la prise de décision, par exemple. Ce que nous voulons, c'est surtout être eux-mêmes acteurs, qu'ils sachent qu'ils ont le droit d'être candidats. Je ne m'attendais pas à tout cet engouement. L'activité a été une réussite. Vraiment, je félicite les organisateurs pour cette mobilisation massive de ces deux couches-là.
À Niamey, les habitants du quartier Kouartéji s'activent pour le retrait de leurs cartes d'électeurs. À ce jour, environ 70% des cartes ont été retirées, a déclaré le chef de quartier Maigari Daouda Amadou, des propos recueillis par Mokhtar Amadou.
La distribution des cartes d'électeurs, vraiment, ça se passe normalement. Parce que dès le début, nous, on a commencé avec les partis politiques, l'opposition, la majorité, les non-affiliés. Je les ai choisis des bureaux. Chaque bureau contient tous les membres de ces personnes que j'ai indiquées là. On amène les cartes, ils font l'appel. Quand la personne amène son numéro, le bureau du vote, on regarde dans les papiers, on les remet. On n'a pas de problème pour la distribution des cartes jusqu'à présent. Actuellement, nous sommes à peu près à 70% de la population qui ont retiré leurs cartes. Peut-être on peut avoir les cartes. 90% de la population qui vont retirer, parce que ça ne reste pas beaucoup. Ce qu'on fait de notre mieux pour que tout le monde ait son carte.
Nous aurions appris que certains prennent de l'argent pour distribuer des cartes. Est-ce vrai?
Non, ça c'est des histoires. En tout cas, moi, à mon niveau, je n'ai pas vu. Jusqu'à présent, je n'ai pas vu quelqu'un qui est venu se prendre. Vraiment, c'est faux et c'est archi faux.
Dans le village de Kolossa, situé dans la commune 5 de Niamey, hier matin, certains propriétaires terriens ont bloqué l'accès au chantier de construction de la deuxième station de traitement de boue de vidange. Ils sont sortis pour réclamer leur dédommagement, explique l'un d'entre eux, Boubacar Harouna, au micro d'Omar Hamma.
Nous avons bloqué la route pour réclamer nos droits. Cette route passe par nos champs, certains sur leurs maisons. Ils ont promis de dédommager chacun en fonction du nombre de mètres carrés utilisés sur son terrain. 3 mois après, nous attendons toujours nos avances. Une situation que nous ne pouvons plus accepter. Ils nous ont convaincus d'accepter la réalisation de cette route pour utilité publique. Car certes, ce bout de vidange est salutaire pour toute la ville de Niamey. Mais ce serait à nos dépens s'ils ne nous dédommagent pas. Après, ils nous ont convoqués à la mairie pour une rencontre. Une fois là-bas, ils ont dépêché quelqu'un pour nous dire d'aller nous consulter entre nous pour céder le passage en attendant la fin du mois. Mais nous pensons que s'ils n'ont rien pu faire en 3 mois, même d'ici la fin du mois, ils ne feront rien pour nous.
Après une rencontre de propriétaires terriens avec les autorités communales, aucun compromis n'a été trouvé. Écoutons Boubacar Zibo, le secrétaire général du 5e arrondissement communal de Niamey, au micro de notre reporter Omar Hamma.
Propriétaires coutumiers impactés qui sont dans la zone n'ont pas été désintéressés. Et nous, au niveau de la ville de Niamey, on n'a pas inséré la situation financière de ces gens-là dans le budget 2020. Quand on a eu écho du financement, on les a réunis, on leur a expliqué l'urgence des travaux parce que le projet prend fin en fin décembre. Donc si on ne réalise pas la voie d'ici fin décembre, c'est dire que l'État du Niger va perdre un grand financement. C'est compris avec eux, on a fait des papiers comme quoi ils seront dédommagés, mais il faut 2021. Parce que vous conviendrez avec moi qu'une révision budgétaire répond à un certain nombre de critères qui ne peuvent pas dépasser les normes. Mais l'un dans l'autre, ni la ville de Niamey, ni le ministère de l'Hydraulique ne peuvent pas payer ces séances tenantes. Et c'est ça qu'ils ne comprennent pas. Mais on a dit à l'entreprise, elle doit engager les personnes qui sont autochtones et qui peuvent faire la main-d'œuvre locale. Ils sont d'accord. Ils sont en train de faire des investissements sociaux.
Migration, trafic humain et refoulement d'Algérie, quel lien? C'est le thème d'une journée d'échange organisée le 27 novembre dernier à Niamey par l'Observatoire Migrants en Détresse. Selon l'un des conférenciers, il y a lieu de faire un travail citoyen de mobilisation et de plaidoyer pour amener les États à réexaminer leurs lois internes pour les conformer aux obligations internationales. On l'écoute Djori Ibrahim au micro de Michel Deji.
Depuis 2014, il a été constaté des milliers de personnes expulsées d'Algérie vers le Niger de suite d'un accord signé entre les deux pays. J'ai rappelé que l'expulsion collective d'étrangers par un État est interdite par le droit international des droits de l'homme, en particulier les instruments juridiques comme la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, tout comme la Convention internationale relative aux droits de tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille. J'ai fait constater également que l'Algérie, comme le Niger, malgré le fait qu'ils ont ratifier régulièrement ces instruments juridiques internationaux qui ont nécessairement une autorité supérieure à celle des lois, il existe malheureusement des lois internes à ces États qui sont contraires aux obligations internationales des États et qu'il y a lieu de faire un travail citoyen de mobilisation et de plaidoyer pour amener les États à réexaminer leurs lois internes pour les conformer aux obligations internationales librement consenties.
Dans le cadre de notre série « Sur la voie de l'amour chez les jeunes au Niger », écoutons le témoignage d'Adamou, âgé de 16 ans. Il vit à Niamey.
Je m'appelle Adamou, j'ai 16 ans, 5e, je suis à Niamey. J'ai eu ma première copine à l'âge de 13 ans. On s'est rencontrés à l'école, on est ensemble toujours. Il s'appelle Koubra. C'est lui-même qui m'a rencontré. C'est lui qui m'a même dit qu'il m'aime. Un homme adulte doit être marié à 20 ans ou à 25 ans. J'aimerais me marier à l'âge de 25 ans.
Les jeunes témoignent. Une production de Studio Kalangou.
Ma copine, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu.
Ah, ma chère Aminata, avec cette nouvelle maladie, on est obligé de limiter nos sorties et fréquentations.
Bon, tu as raison, hein. Mais tiens, j'ai appris que notre voisin l'a dit, le commerçant, il est sorti de l'hôpital et totalement guéri de la COVID-19. On devrait penser à faire un tour chez lui pour lui faire barca, n'est-ce pas?
Quoi? Moi, aller dans cette famille de COVID-19 pour faire barca? Non, je suis désolée, je ne suis pas partante.
Mais non, Ramot, qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que tu t'entends parler? C'est très grave ce que tu dis là. Peux-tu imaginer un instant toute la tristesse, la peur qu'il a pu vivre lors de son traitement? Isolé de tous ses proches, ses parents, ses amis et connaissances, mets-toi un instant à sa place. Comment te sentirais-tu toi si tout le monde t'abandonne? Comment te sentirais-tu si moi, ton ami, je t'abandonne? Hein? Peux-tu imaginer? À ce moment, Ladj a plus que jamais besoin de notre soutien, de notre compassion.
Aminata, je m'excuse beaucoup de mes propos déplacés. Merci de m'avoir amenée à la raison. Je crois que nous devons envisager une visite chez lui ou simplement l'appeler pour au moins prendre de ses nouvelles et lui montrer notre soutien.
Non, ne t'en fais pas ma chérie. Tu sais, je te comprends. Ta réaction est certainement due à la peur. Continuons juste de sensibiliser les gens autour de nous, apporter notre soutien aux personnes atteintes de la COVID-19 tout en respectant bien sûr les gestes barrières, notamment le port des masques, le respect de la distanciation sociale, se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique.
Ceci est un message du studio Kalangou en collaboration avec le ministère de la Santé publique du Niger.
Nous arrivons à la partie magazine. Les relations amoureuses naissent partout, mais à l'école, elles peuvent avoir des conséquences sur le rendement scolaire des élèves. Si les enseignants sont les premiers témoins des sentiments qui naissent entre ces jeunes, les parents, quant à eux, ne se rendent compte souvent que tard et manifestent parfois une certaine incompréhension. Reportage de Rukayatou Abdrahman.
Le caractère mixte des écoles et des classes fait qu'à la longue, des sentiments peuvent naître entre deux camarades de classe, filles et garçons. On parle ici de l'amour scolaire. Chez ces élèves, ce sentiment d'amour peut perturber les cours ou même déconcentrer les jeunes amoureux. Malika, 15 ans, raconte comment elle communique avec son amoureux pendant les cours et une fois à la maison.
Comme c'est interdit d'utiliser les téléphones en classe, on faisait des petites notes sur des papiers, des poèmes, des messages d'amour, comme « tu me manques » et plein d'autres. Des fois, ça m'empêche de suivre bien les cours parce que je suis distraite. À la maison, on communique par WhatsApp, on s'envoie des messages, des photos et des notes vocales.
Pour Florence, enseignante de mathématiques dans un établissement scolaire de la place, l'amour scolaire peut être une source de motivation. Il nous raconte ici une petite anecdote.
Le côté positif, c'est quand ces deux-là qui s'aiment dans la classe, ils s'entraident entre eux sur leurs études. Surtout si c'est le garçon qui aime la fille et que la fille ne travaille pas, le garçon, pour montrer cet amour-là, fait tout possible pour que la fille aussi puisse réussir. Il y a eu un cas comme ça dans la classe. C'est sur leur copie que j'ai constaté cela. Qu'ils ont fait les mêmes phrases, je les ai appelés, mais bien vrai qu'ils ne se sont pas assis sur les mêmes tables. Mais c'est là qu'ils m'ont fait comprendre que c'est le garçon qui l'a aidé à expliquer. Et voilà que par coup de chance, ils viennent le même exercice qui est sorti.
Les parents estiment que l'éducation des enfants, surtout à l'adolescence, est parfois difficile. Ce qui pourrait toutefois les pousser à se rebeller face à la résistance des parents vis-à-vis de leur choix. Un conflit de génération peut alors naître entre le parent et son enfant amoureux. Hajia Aïssa, mère de famille, livre sa conception des choses.
De nos jours, il faut être patient avec les jeunes. Avant, on ne s'intéressait pas à ces histoires de relations amoureuses. On se concentrait sur notre travail. Tu atteindras le lycée sans même penser aux petits copains. Maintenant, dès la classe de CM2, la fille a déjà un copain. J'ai un petit garçon en 6e, je le mettrai en garde. Les études sont d'abord la priorité. Quand il atteint la puberté, il commence à se rebeller. Si c'est un garçon, il se mesure à son père. Et si c'est une fille, à sa mère. Tout ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'attirer leur attention.
Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point, disait le philosophe Blaise Pascal, comme pour dire que le cœur ne se commande pas. Tomber amoureux, c'est bien, mais réussir dans ses études, c'est encore mieux.
À suivre le forum sur la participation politique des jeunes, c'est avec Mustapha Momansani de Zender. Réécoutez ce journal et les autres programmes du studio Kalangou en composant le 3-2-5 avec RTL.